RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Bonsoir à tous et je salue tout particulièrement ceux qui commencent à être des habitués, qui nous retrouvent donc tous les soirs, tard, c'est vrai, après l'after foot bien sûr, dans une ambiance bien différente de nos rendez-vous quotidiens de l'après-midi. Mais c'était aussi un peu mon désir de profiter de cette opportunité pour vous offrir autre chose. Mais rassurez-vous, nous évoquons toujours l'amour, la sexualité et ça en toute liberté. D'ailleurs ce soir le sujet est brûlant puisque nous allons savoir si les femmes ont moins de désir ou plutôt moins de besoins sexuels que les hommes, avec pour en débattre bien sûr deux femmes avec moi et bien sûr un homme. Mais avant de présenter nos invités, je vous propose déjà le programme de ce soir. Donc on l'a vu, le sujet c'est les femmes ont-elles moins de désirs et de besoins que les hommes. Nous avons testé pour vous la position des petites cuillères en love coaching. Eh bien, on verra si c'est une bonne idée que les hommes offrent des sous-vêtements aux femmes. Et puis, en lecture érotique, je vous propose un extrait d'un bouquin qui s'appelle « Ma reddition » et qui est un livre qui est une sorte de ode à la sodomie. Et vous verrez, c'est tout à fait intéressant comme livre. Si vous ne le connaissiez pas, vous serez ravis de le découvrir, j'en suis certaine. Nos invités. Nous avons Jessica qui est avec nous. Jessica, une auditrice fidèle depuis déjà quelques années. Bonjour Jessica.
Bonjour Brigitte, bonjour à tous.
Merci d'être là et vous allez jouer le jeu. Et on retrouve également Julie Duchemin. Bonjour Julie.
Bonsoir. Bonsoir Brigitte.
Normal, ça m'arrive tous les jours, tous les soirs, je suis complètement paumée. Voilà, Julie Duchemin, vous êtes architecte du désir. J'adore cette appellation, en fait vous êtes sexologue, mais vous aimez aider les couples à retrouver le désir,
construire
le désir. Leur sexualité.
Tout à fait.
Et alors, comme homme à mes côtés ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un ami, Simon Roussel.
Bonsoir Brigitte.
Bonsoir. Alors vous êtes, vous avez aussi une casquette un peu particulière parce que vous êtes d'abord.
J'ai posé sur la table mais là.
Oui oui c'est vrai en plus. Non c'est un béret ça non.
Non c'est une casquette.
C'est une casquette. Alors vous êtes bioénergéticien mais vous êtes également comédien depuis très longtemps puisque vous faisiez partie des Inconnus.
Oui, du théâtre de Beauvais.
Il y a quelques années. Au siècle dernier.
Voilà c'est ça.
Et alors je voulais quand même signaler parce que c'est drôle, vous avez créé sur internet une série Bistrot de la Paix,
oui.
C'est donc diffusé sur internet avec vos copains de toujours, hein, Philippe Chevalier,
Noël Chapelle, Blandine Métayer,
etc. C'est un peu des comme dans un bistrot quoi,
autour d'un comptoir,
on refait la société,
on refait le monde, c'est le café du commerce et c'est aussi lié à la thérapie puisque moi j'appelle ça la rigolothérapie, donc je suis rigolothérapeute en plus, donc ce qui fait énormément de bien au corps.
Exactement, exactement. Mais moi, on le dit toujours, hein, Julie Duchemin, il faut sourire dans le couple. C'est ça le secret des couples qui durent aussi.
Oui. Mettre de la joie, mais malgré tout, malgré ce quotidien, ces reproches qui font faire ce qui est un couple aussi, mais de continuer à mettre de la joie de vivre, des compliments, on en parlait aussi, et donc. Voilà.
Et du rire, hein, de s'amuser rire. Ensemble, hein, de partager. Donc l'humour, on manque d'humour, on manque de rire dans cette société.
Ça n'a
jamais été aussi mauvais qu'aujourd'hui. Et justement, ça détend, ça libère le système nerveux. Ça a un impact incroyable sur le corps humain.
En tout cas, moi, ça m'a amusé. J'ai été voir cette série Bistrot de la Paix sur Internet. Mais on ne va pas parler de ça ce soir. On va parler d'un sujet peut-être beaucoup plus grave. Est-ce que les femmes auraient moins de désirs et de besoins que les hommes? En tout cas, c'est souvent la plainte des hommes, hein. Elle a jamais envie. Je crois qu'on peut le dire de manière assez affirmative. Oui, les femmes a priori auraient moins de désirs. Après, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? Moi, je veux bien accepter que la question reste posée. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est encore une réalité.
C'est une réalité qu'on observe dans les cabinets effectivement de sexologues. On parle même d'une femme sur deux, hein, 40 à 50%, qui à un moment donné de sa vie présente une dysfonction, voilà, un trouble, un désir insuffisant, alors qu'on parle plutôt d'un homme sur cinq. Alors donc c'est vrai que c'est quand même plus une maladie féminine.
Oui, c'est
la première maladie des hommes étant plutôt d'aller trop vite, d'éjaculer trop vite. Donc si on prend effectivement la réalité des cabinets, c'est celle-là. Maintenant il y a aussi vraiment il y a plein de facteurs qui entrent en compte, notamment l'âge. et plus, je dirais là, la femme va aller en avançant en âge, si elle fait ce qu'il faut et qu'elle a le partenaire aussi qui la suit ou un amant, eh bien, elle peut au contraire retrouver du désir, et c'est vraiment quelque chose qui peut aller en grandissant avec l'âge, alors que parfois chez l'homme c'est plutôt l'inverse, et ils sont très 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 fougueux, je dirais, en bas âge, quand ils sont jeunes.
Après la puberté.
Et puis après, bon, il y a un petit moment où ça devient plan-plan, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment le désir, c'est un mystère, hein, pour moi, qui est à explorer encore, et on peut dire aux femmes que tout est possible, que ça évolue tout le temps, mais si on prend la moyenne,
le désir, en quelque sorte, c'est presque un travail quotidien, il faut l'entretenir, si on le laisse de côté, il s'endort, et après, c'est très compliqué de le réveiller. En revanche, en ce qui concerne les besoins, là, je dirais qu'on constate de manière évidente aussi que les besoins, au fil du temps, vont diminuer. Et un homme à 20 ans, on va être tout à fait capable de faire 3 fois l'amour dans la nuit. À 70 ans,
c'est différent.
3 fois dans le mois maximum.
C'est différent, bien sûr. Et on parle de ménopause chez la femme, mais il existe aussi une certaine ménopause chez les hommes aussi.
L'andropause,
voilà, où on sent vraiment...
Ça s'appelle maintenant déficit lié à l'âge. Hein.
Ah, c'est l'andropause.
C'est un petit peu compliqué comme terme.
Oui, parce qu'en fait, on a changé parce que l'andropause avait un côté un peu comme la ménopause. Une sorte de moment fatidique qui arrive, alors que le déficit lié à l'âge, on voit que c'est quelque chose chez l'homme qui va s'éteindre beaucoup plus lentement, et il n'y a pas d'âge spécifique. Il y a des hommes qui vont être touchés par le DALA à 50 ans et d'autres à 80. Donc
on parle de ça aussi pour les femmes. Il y a certaines femmes qui peuvent avoir la ménopause à 36, 40 ans, alors que d'autres peuvent l'avoir.
Certes, mais la norme est assez. Est beaucoup plus.
Maintenant, c'est pas parce qu'il y a ménopause ou DALA pour les hommes que c'est fatidique et que ça signe la fin d'une vie amoureuse, érotique, sexuelle. Je pense que ça, c'est important.
Heureusement,
oui, physiologiquement, les choses vont plus être les mêmes, que ce soit pour un homme dont les érections vont un petit peu, être plus longue à venir, être plus rapide à disparaître, sauf médicaments, comme disait, c'est mort. Pour les femmes, la lubrification naturelle va pas être la même, mais pour autant, une femme qui a envie, qui a du désir, qui est amoureuse ou qui a du désir sexuel très fort, eh bien la lubrification elle va venir aussi, et c'est juste une question de temps aussi dans ce cas-là.
À l'époque, c'était le sujet de philo, donc au mois de juin, et le sujet de philo était un des sujets de philo, c'était le désir est-il par nature illimité, et il y a une très grande différence quand même entre le désir et l'envie. Quand on a envie, ça amène du désir de l'autre, mais on peut avoir une envie physiologique, tout simplement, sans avoir le désir de quelqu'un d'autre. On va pas désirer son sextoy. On va avoir envie de se masturber avec son sextoy. Alors que si on a un partenaire en face et qu'on n'a pas spécialement le désir de lui, on peut quand même avoir une envie de sexe sans désirer l'autre. Mmh. Et là, c'est là où c'est un peu plus compliqué.
C'est très intéressant ce que vous dites, Jessica, mais justement, ce que les couples subissent le 3/4 du temps, c'est que on en veut à l'autre pour des tas d'autres choses que le sexe, d'ailleurs, et du coup, même si on a envie de faire l'amour, on ne va pas pouvoir le désirer, et du coup, on fait l'impasse sur la sexualité.
Exactement.
Et c'est en ça qu'il faut peut-être toujours enlever les mauvaises herbes, si je puis dire, du couple, pour maintenir le désir. Ce serait peut-être le premier conseil qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent.
Faire la paix. Vivre en paix.
Mettre les choses à plat.
C'est ce qui permet d'augmenter et d'alimenter le désir. Et moi, je pense à travers tout ça que c'est le rêve, c'est faire rêver l'autre, que l'autre nous fasse rêver. C'est ce qu'il y a de plus important, le déclencheur. Après, bon, il est différent chez chacun. Mais à la base, je suis tout à fait d'accord avec Brigitte, s'il y a un conflit profond, permanent, latent, ça marche pas.
C'est pour ça que moi, un des conseils que je donne, c'est de se donner un temps, un moment donné, pour se retrouver juste pour faire la fête, finalement, à ce couple, à cette relation, à ce désir, dans lequel c'est pas le moment de régler ses comptes, de repasser en revue la liste des prochaines courses, des prochaines vacances. C'est justement un moment donné pour le couple. Et là, on peut refaire naître, comme finalement quand on retrouve un amant ou une maîtresse, quand on n'est pas dans une relation instituée. Ben, oui. L'objectif, c'est comment je vais me préparer, qu'est-ce que je vais lui faire comme surprise, où est-ce qu'on va aller. Peut-être ça peut être ailleurs que dans la chambre à coucher. Et là, il n'y a pas de place, justement, pour on peut même jouer un autre personnage avec son mari, avec sa femme. Ça va être programmé. Parce que souvent, les personnes ont du mal à entendre ça. Ah, mais non, si je programme, alors c'est pas naturel. Et pourtant.
Alors qu'on va tout programmer. On programme ses soirées au cinéma.
On programme ses vacances.
Les déjeuners.
Tout ce qu'on désire, on programme.
Enfin, toute notre vie est programmée.
Et on se réjouit à l'avance, pourtant, de recevoir des amis, d'aller en vacances.
Oui, on programme tout. Le désir. Et on veut pas programmer ce qui est quand même essentiel pour le couple, c'est-à-dire le rapport sexuel. Il me semble, parce qu'on a encore dans notre tête, cette imagerie que le désir, ça doit être quelque chose de magique qui nous arrive, qui vient de je ne sais où. Non, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est d'abord le désir physique, l'envie physique qui nous réveille et qui nous fait ensuite chasser l'homme pour avoir la satiété? Ou est-ce que c'est autre chose qui nous fait nous réveiller quand... Qu'est-ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là?
La base physiologique, c'est la reproduction.
Eh oui, mais on n'a pas tout le temps envie.
Non, mais on subit cette pulsion de reproduction. L'instinct. Et cet instinct, d'ailleurs, qui est exacerbé dans des situations dramatiques. On sait que dans des situations graves de guerre ou de danger, ça se réveille. Effectivement, ça se réveille parce que, inconsciemment, il y a cette envie naturelle de se
survivre.
Reproduire, de survivre. Mmh. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et à partir de là, le système hormonal, qui est un système d'excitation d'un système, je fais pas exprès, mais un système, donc, sexuel. Le système hormonal, c'est très complexe. Bon, alors les hormones, on sait que ça se promène à travers le sang. Ce sont les glandes endocrines qui les fabriquent et qui vont stimuler et donner des signaux. Mais il y a aussi une communication invisible, une communication quantique, on va dire une communication en wifi hormonal. Et moi, je me souviens d'un film qui m'avait frappé il y a très longtemps, d'une caméra cachée dans une salle d'attente d'un médecin. Il y avait 10 chaises et sur une chaise, on avait projeté la testostérone. Et on faisait rentrer les femmes une à une dans... Vous l'aviez vu ce film-là? C'est fabuleux. Enfin, moi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et évidemment, donc, les femmes vont sur la chaise ou la chaise d'à côté. Donc, nous sommes des animaux, quelque part. Nous sommes des mammifères et nous répondons à des instincts qui sont des instincts biologiques. Et c'est important de le savoir. Et au-delà de ça, il y a le mental. L'humain, bon, il s'est relevé, il s'est redressé, il s'est verticalisé et il a une espèce de système différent de l'animal. Il peut imaginer, il peut mentaliser les choses, il peut créer aussi par le mental tout un tas de choses. Et c'est là que c'est intéressant d'en être conscient aussi pour savoir s'en servir à bon escient et fabriquer dans son mental des situations qui vont permettre d'exacerber ce désir.
Absolument, et on sait aussi que plus on fait quelque chose, plus on entretient le biologique, moins on le fait, plus on l'éteint, et c'est pareil pour le désir sexuel, comme
exactement.
Pour la faim, comme
ça
pour le sommeil, comme pour le... Exactement. Bon, continuez à entretenir votre désir. Ça, c'est
comme
le mot
disait,
de la fin.
Comme le disait Julie, c'est bien de se donner un objectif dans la semaine, un jour par semaine, ou même s'il y a le paramètre des enfants qui sont grands, ils peuvent nous entendre, ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert que quand ils sont petits. Donc, des fois, ils font semblant de dormir pour laisser les parents aller se coucher. Et puis, comme par hasard, lorsque les parents commencent leur petit quotidien, où ils se retrouvent, les enfants viennent frapper à la porte, papa, maman, et donc ça réendort ce désir.
Absolument. Et puis tout de suite, je vous propose qu'on écoute l'éclairage de Caroline Messinger, spécialiste du langage des gestes, et comme ça, vous saurez si la femme qui se trouve en face de vous est amoureuse ou si vous perdez votre temps à essayer de la séduire.
RMC, et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.
Nous sommes avec Caroline Messinger. Bonjour Caroline.
Bonjour Brigitte.
Et la première question que je vous pose, parce que je suis sûre que ça intéresse beaucoup d'auditeurs, quand on est face à une femme, quels sont les gestes qui la trahissent et qui nous laissent penser en tant qu'homme que ça y est, ça va peut-être être possible?
Bien, vous avez plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Alors, le premier, je dirais, est peut-être le moins contrôlable et donc le moins contrôlé. Vous la regardez dans les yeux.
Oui.
Et en fonction de la dilatation de ses pupilles, eh bien, vous saurez si oui ou non la personne qui est en face de vous est séduite ou pas.
Donc, plus elle a la pupille ouverte, plus elle est
séduite.
Voilà,
plus la pupille est dilatée, plus la pupille est grande, plus l'effet séduction est opérationnel. Si la pupille est de la taille d'une tête d'épingle,
c'est pas bon.
C'est pas bon.
Mais c'est pas évident quand même de voir la taille de la pupille.
Ah, c'est apprendre à observer. Que ce soit globalement tous les gestes les plus subtils aux plus visibles, c'est C'est un travail.
Alors, ça me fait rire ce que vous me dites, parce que j'avais appris un jour que pour plaire à un homme, il fallait mettre un produit dans l'œil qui dilate justement la pupille.
Oui.
Donc finalement, c'est la même chose.
C'est la même chose, tout à fait.
C'est-à-dire que si notre pupille se dilate, l'homme va être séduit parce qu'il va se dire, ça y est, c'est bon.
Tout à fait. Voilà, donc il suffit. C'est aussi très lié aux pensées ou aux images que vous avez dans la tête. Vous voulez effectivement, il suffit de faire l'expérience dans un miroir, suffit que vous pensiez à quelqu'un d'agréable ou quelqu'un qui vous plaît, et bien vous allez voir progressivement les pupilles changer de diamètre.
Donc voilà, ça c'est déjà une première remarque. Est-ce que vous auriez un autre signe comme ça qui serait assez révélateur?
Alors d'entrée de jeu, vous avez aussi la manière de faire la bise.
Oui.
Si la personne qui est en face de vous vous fait la bise joue droite, c'est la bise socialement correcte, mais sans attrait particulier. En revanche, entre un homme et une femme, si la bise est plutôt joue gauche...
Il faut que je fasse attention, moi, quand je tends ma joue.
La sympathie est plutôt à l'ordre du jour. Donc, le côté droite-gauche est très important au niveau de la bise, par exemple.
D'accord. Donc, si vous avez une collègue de travail qui vous plaît, essayez de lui faire la bise. Si elle tend la joue gauche, c'est bon.
Voilà. Non. Si elle tend la joue gauche, a priori,
Le courant passe.
Le courant passe, tout à fait.
Alors j'ai découvert aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup rire dans ce livre, ces gestes qui vous trahissent aux éditions First, que le toucher, les hommes politiques en abusent parce que toute personne touchée, c'est une voix acquise.
Oui, c'est vrai que toucher quelqu'un, a priori, c'est d'office
c'est rentrer en contact.
En contact, donc oui. C'est... Le contact physique, et c'est amener donc une proximité, une complicité que vous n'avez pas forcément d'entrée de jeu en dehors du toucher. C'est aller d'office, oui, c'est d'office aller passer un message de proximité, de convivialité, de complicité.
Mais est-ce que c'est bien, quand on a envie de séduire quelqu'un, d'essayer de le toucher? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est vécu un peu comme agressif? Parce que là, c'est l'homme politique, on voit à la télé, et donc je comprends bien que l'électeur soit flatté d'être touché par un ministre, un député, ou un président. Mais dans la vie courante, est-ce que c'est pas parfois vécu comme quelque chose d'un peu agressif si quelqu'un nous touche alors qu'on le connaît à peine?
Ça peut l'être, évidemment, bien sûr. J'allais dire, comme dans tout geste, la subtilité est de règle. Quand vous touchez un homme ou une femme, certes, vous lui faites passer un message. Après, ne pas en abuser.
Il faut pas toucher directement non. Là où on aurait envie. On touche plutôt l'épaule, quoi.
Plutôt l'épaule, plutôt l'avant-bras, plutôt... Déjà, la notion de contact va passer un message, de toute façon.
Et puis, dans cet ouvrage, par exemple, vous nous révélez aussi que notre position assise, quand on est assis face à quelqu'un, est très révélatrice de notre attrait ou notre position dominante ou soumise. C'est incroyable, finalement.
Oui, la position, mais les positions corporelles sont souvent même très subtiles et donnent des éléments d'information importants. Et par exemple, vous parliez d'hommes et femmes, en position assise, vous constaterez que beaucoup, un des gestes récurrents, c'est le croisement des jambes.
Bien sûr, oui.
Donc ça, c'est un geste, le bas du corps est en général la partie la moins contrôlée de tous nos gestes. Et donc, toujours dans cette position attractive ou répulsive, si... là encore, une femme vous plaît a priori, ou en tout cas attire votre sympathie, si elle croise la jambe gauche sur la droite, pour autant qu'elle soit droitière évidemment, il y a a priori un climat de sympathie là aussi, ou de situation bien vécue. En l'occurrence, si elle croise jambe droite sur jambe gauche, tout en étant droitière, je le répète, là c'est un croisement répulsif.
De contrôle et de fermeture, quoi.
De contrôle et de fermeture. Donc là, le terrain est peu propice au dialogue, en tout cas.
On sait aussi que les femmes passent souvent leurs mains dans les cheveux. Ça signifie quoi?
Un geste de séduction.
Oui.
Assez classique. Alors là aussi, selon la récurrence, parce que n'oublions pas que le geste devient signifiant dès lors qu'il est répété, donc récurrent. Et donc, une femme qui se passe régulièrement la main dans les cheveux, a priori, est quelqu'un de plutôt narcissique, effectivement, et qui cherche à plaire, qui peut être une séduction passive, pas forcément une séduction active, mais qui a besoin d'avoir dans le regard de l'autre un renvoi positif.
Caroline Messinger, vous travaillez depuis combien d'années sur ces gestes? C'est qui a eu l'idée? C'est Joseph? C'est vous? Est-ce que ça s'est fait ensemble?
Non, Joseph avait déjà... Il était marié avec la gestuelle bien avant moi. Quand je l'ai rencontré, donc il y a un peu plus de 15, oui, il y a une quinzaine d'années, il travaillait déjà, il travaillait déjà sur la gestuelle. Et puis nous avons continué à développer ensemble cette discipline, puisque rien n'est jamais acquis en gestuelle, et on a fait beaucoup d'études de terrain, beaucoup d'observations ensemble, de manière à pouvoir développer, étayer et avoir une vision de la gestuelle un petit peu différente, je pense, en tout cas de celle des divers autres spécialistes en la matière.
Alors, il y a ce livre, Ces gestes qui vous trahissent, est un livre très 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 gros, et on se dit, mais comment on peut assimiler tout ça finalement dans la vie pratique? C'est pratiquement impossible. Ou est-ce que au fond il y a une sorte comme ça d'intuition qui se fait quand on travaille un peu dessus?
L'objectif n'étant pas forcément de tout assimiler, pour revenir à cette sixième édition de Ces gestes qui vous trahissent spécifiquement, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus volumineuse que les autres, parce qu'effectivement Joseph l'avait envisagé comme étant la synthèse de ce qu'il voulait, de ce qu'il avait fait jusqu'à présent sur les gestes. Alors synthèse, au regard de tout ce qui a été développé en un seul volume, c'était mission impossible, mais ceci dit, elle n'en reste pas moins importante. Et l'objectif n'étant pas d'apprendre tout par cœur ou de tout retenir, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gestes.
Je me sens soulagée.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de commencer par observer ses propres gestes. Être à l'écoute de son propre corps. Et à partir du moment où vous avez déjà cette attitude d'auto-observation et de ressenti par rapport à vos gestes, vous allez a posteriori comprendre et saisir beaucoup plus facilement la gestuelle de vos interlocuteurs.
Donc, si je comprends bien, j'essaye d'avoir le mode d'emploi. Hein. On a le livre entre les mains, ces gestes qui nous vous trahissent. On remarque qu'on a tendance à, par exemple, toujours mettre sa main devant la bouche. Enfin, c'est pas du tout mon cas, hein, mais Et donc, on cherche dans le livre ce que ça signifie, on comprend ce que ça signifie, et petit à petit, comme ça, on arrive à intégrer la gestuelle. Hein. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, dans cet ouvrage-là, vous l'avez peut-être remarqué, vous avez sur chaque partie anatomique, vous avez une définition d'un vocabulaire psychoanatomique. C'est-à-dire que Joseph avait travaillé pendant des années, a travaillé pendant des années sur un postulat qu'il a donc vérifié au fil du temps, à savoir que chacune des parties de notre corps est symbolique, représentative d'une caractéristique, quelle qu'elle soit. Et à partir de là, ce vocabulaire psychoanatomique permet effectivement de traduire de façon plus évidente la signification d'un geste.
C'est tout à fait, enfin c'est un livre en tout cas assez assez extraordinaire. Nous avons des auditeurs qui ont envie de vous poser des questions, Caroline Messinger. On va commencer avec Raphaël. Bonjour Raphaël.
Bonjour Brigitte et bonjour Caroline.
Bonjour.
J'ai une petite question au sujet des mains croisées, et c'est pour au sujet des femmes lorsqu'elles se mettent les mains entre les cuisses et qu'on discute ensemble, et savoir ce que ça représentait et ce que ça signifiait.
Les mains entre les cuisses quand vous parlez avec une femme, dites donc.
Je suppose qu'elle a les jambes donc croisées quand elle reproduise ce geste. Oui. Quelle est la jambe dominante? Si elle croise la jambe droite sur la jambe gauche ou la jambe gauche sur la jambe droite, ça c'est un détail important. Et puis les mains entre les cuisses, donc les deux mains en sandwich en quelque sorte, hein, entre les cuisses. Je donne de façon très très générale, parce que dans la signification des gestes, le corps a sa symbolique et a sa signification, mais ça n'intervient qu'en partie. Le contexte est aussi signifiant. Là, en l'occurrence, je n'ai pas d'informations sur le contexte, mais ce type de geste peut signifier une forme de frustration, donc sur le plan
sexuel.
Sexuel, tout à fait.
D'accord. Voilà. Elle aimerait se masturber, mais elle n'ose pas. Voilà.
D'accord. Merci en tout cas.
Merci Raphaël.
Bonne journée.
J'extrapole un peu, hein, vous avez bien compris. Morgane est avec nous également. Bonjour Morgane.
Oui, et bonjour Brigitte et bonjour à votre invitée Caroline.
C'est une bonne question, tiens Morgane.
Moi je me pose une petite question. Je voulais savoir quels étaient les signes en fait qui montraient que les gens mentent en fait. Comment les déceler?
Il y en a pas mal, hein, je crois.
Il y en a plusieurs, oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Que me vient-il à l'esprit? Alors, en observant les lèvres, quand la personne s'exprime, une personne qui ment... alors, évidemment, l'observation est subtile, je vous l'accorde. Mais une personne qui ment aura la lèvre supérieure particulièrement rigide.
D'accord.
Or, quelqu'un qui s'exprime de façon spontanée, en règle générale, a une certaine souplesse mimique du visage spontané, ce qui n'est pas le cas pour celui qui ment. Vous avez également le regard.
Un peu fuyant.
Un regard qui fuit, tout à fait.
Donc une personne... C'est difficile de regarder dans les yeux quand on est en train de mentir.
Complètement.
C'est ça.
Complètement.
Et puis je crois qu'il y a les mains aussi, la position des mains qui
peuvent trahir le
mensonge.
Les mains peuvent trahir le mensonge. Alors là encore, le contexte va vous donner des informations. Si la personne est assise et que les mains restent cachées sous la table...
C'est pas bon signe.
C'est pas bon signe. La personne est assise également et elle cache ses deux mains dans le fond de ses poches. C'est pas bon signe non plus.
Oui, quand on essaye de contrôler justement le mouvement des mains, c'est peut-être parce qu'on est en train de mentir.
Voilà, tout à fait. Les mains restent sur le plan symbolique les représentatrices les plus caractéristiques de la communication. Donc empêcher ces mains de bouger, c'est déjà un refus de communiquer.
Merci Morgane pour cette très bonne question. Et on va terminer avec Fabrice. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors le sujet est passionnant, hein. Moi-même j'observe beaucoup les personnes et ça m'a permis de gagner du temps dans certains cas. Mais je voulais savoir si, tout en connaissant ce langage de ce qui peut révéler nos sentiments, je voulais savoir s'il y avait des choses qu'on ne pouvait cacher. Je vais vous donner un exemple, par exemple le sourire. On dit que les personnes qui peuvent sourire vraiment du fond du cœur sourient avec leurs yeux.
C'est exact.
Hein, et si les yeux ne font rien apparaître, qu'il sourit pour faire plaisir en fait. Donc je voulais savoir s'il y avait d'autres gestes comme ça qui pouvaient, qu'il était impossible de contrôler en fait.
Bah, a priori, globalement, les gestes, vous ne les contrôlez pas plus que ça dans la mesure où ils sont l'expression de vos émotions en temps réel. Alors c'est vrai que le sourire est un élément très important parce que dans le sourire vous avez toute une gamme de sourires, mais évidemment à la radio je vais l'appeler de sous-sous-rire. Il y a le vrai rire et le sourire.
Mais je vais parce que je vois bien que vous avez du mal à, enfin on a compris bien sûr votre question Fabrice, mais c'est compliqué à expliquer. Ce que je crois qu'on peut dire, que certains hommes politiques ont tellement travaillé la gestuelle qui finissent par ne plus paraître vrai, tellement on leur a appris à contrôler. Et c'est là aussi où on voit bien que quand on veut trop contrôler notre gestuelle, on peut finalement faire passer des messages tout à fait désagréables.
Inadaptés, oui, oui.
Et inadaptés. Donc je crois qu'il ne faut pas essayer justement de dissimuler nos sentiments, Fabrice, parce que de toute façon, ça va nous donner un côté comme ça un peu Robocop, si je puis dire, parce que on parlait tout à l'heure du mensonge et des mains qu'on va garder dans ses poches, mais ça va donner un côté un peu étriqué au niveau des épaules, tout ça. On voit bien que il vaut mieux se laisser vivre, quoi.
Oui, tout à fait, en ayant à l'esprit que certains gestes sont effectivement plutôt défavorisants en termes de séduction ou d'image de soi. Mais après, au-delà de ça, effectivement, l'objectif n'est pas de faire comme les hommes politiques, c'est-à-dire d'adopter un registre gestuel très standardisé, très...
Et qui finit par être impersonnel.
Complètement. Oui. Et en plus, ils reproduisent tous les mêmes erreurs, donc c'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est drôle. Hein. Moi, j'adore les observer quand ils sont à la télévision, parce que on voit bien qu'ils ont beaucoup travaillé la gestuelle, mais finalement, ils n'ont pas compris.
Il n'y a aucune créativité. Ils sont complètement impersonnels. Et effectivement, en plus, au niveau des erreurs ou des fausses notes gestuelles, ils les reproduisent allègrement.
Merci Fabrice, en tout cas, de votre question. Et si vous ne connaissez pas la position de la petite cuillère du Kama Sutra, eh bien, on va vous dire à quoi ça ressemble dans un instant.
RMC, vous aimiez les femmes avant ? Vous allez les adorer. RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Et nous avons testé pour vous cette position du Kama Sutra, les petites cuillères, et c'est Julie Duchemin, Jessica Schmitt et Seymour Bruxelles qui sont avec moi. Alors on l'a pas testé tous les quatre, hein, parce que sinon ça serait...
Ouais,
c'est
dommage. Cuillères.
On aurait fait
c'est dommage. Un service de cuillère. La petite cuillère.
Oui, mais Seymour, vous auriez été pris en étau entre trois femmes, là.
Je sais que je connais pas, je veux découvrir.
Il y a aussi les gars de ceinture, hein.
Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, en tout cas, la position des petites cuillères, on va essayer de la décrire rapidement, mais je crois que pratiquement tout le monde la connaît. Hein. On est allongé.
Ouais, allongé, effectivement, côte à côte, on pourrait dire. Et donc, l'un des deux partenaires présente son dos. À l'autre.
En général, c'est la femme.
Voilà, en général, la femme, effectivement. Ça peut être aussi,
si c'est deux hommes.
Deux femmes. Mais donc, et c'est une position, je dirais déjà d'emblée, j'ai envie de dire, qui est très conseillée pour les personnes, par exemple, soit lors d'une grossesse, soit juste après, quand on a envie de reprendre, c'est une position très douce qui va permettre une pénétration, notamment, comme je dis, quand
on a mal au dos aussi, par exemple, après une opération.
Ouais, quand physiquement on n'est pas prêt à faire effectivement de la Java toute la nuit, eh bien c'est une position qui évoque la douceur.
Je voudrais préciser pour les femmes enceintes qui nous écoutent que c'est sur le côté gauche qu'il faut qu'elles se couchent, car sur le côté droit elles vont écraser la veine cave et ce sera assez désagréable.
Un petit conseil.
C'est important, c'est très important.
Côté gauche.
Surtout en fin de grossesse.
Oui. Ouais.
Donc voilà, moi je ne suis pas totalement fan de cette position, mais en même temps,
elle est plus dans la tendresse, je dirais, dans la complicité, oui. Dans la douceur.
Moi j'aime bien parce que ça me permet de m'endormir rapidement.
Après, sans
changer de position.
C'est une position de confort. Hein.
Ah non, après on peut la faire évoluer, on peut partir comme ça, puis à un moment donné se coucher, c'est finalement la femme bascule. Sur le ventre, donc l'homme est sur le dos et la femme est sur son ventre, donc, et puis après on peut écarter les jambes, donc elle permet de bouger sans devoir passer, je dirais, debout en missionnaire, etc. De la petite cuillère, on peut faire évoluer dans des positions plutôt de type couché, mais où les mains peuvent quand même alors plus un peu caresser les seins, etc. Mais c'est vrai que le désavantage que moi je vois, c'est que pour l'homme qui est derrière, il y a plein de choses qu'il ne voit pas, évidemment, puisqu'il n'est pas face à la femme, il n'y a pas la bouche, ils ne peuvent pas s'embrasser.
Et puis la pénétration n'est pas forcément la plus intéressante non plus cette position-là.
Ouais, ça ne va pas très profondément. La femme a besoin quand même d'une stimulation du col de l'utérus pour avoir vraiment un plaisir intensif et un vrai orgasme.
Il y
a tout plein d'orgasmes,
bien sûr, heureusement.
Peut-être un orgasme plus profond, plus vaginal, d'origine vaginale.
Bon, après, l'avantage de cette position aussi, c'est quand on est le matin, par rapport simplement à l'haleine de l'autre. Et puis l'inconvénient, c'est qu'on
les
Pardonnez-moi. Mais après, certes, passons cette histoire d'haleine. L'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas l'autre dans les yeux. Et par rapport à la position du missionnaire, qui est bien plus agréable, autant dans la profondeur que dans l'échange, dans le regard, c'est beaucoup mieux.
La position du missionnaire reste la position favorite. Quand on fait une enquête, quelle qu'elle soit, c'est toujours celle qui arrive largement en tête, de toute
Numéro
façon.
Un, ouais.
Mais la petite cuillère a ses avantages. Elle est pas mal non plus pour... Je dis, dès qu'on a un petit handicap, dès qu'on est, on est sûr de pas se faire mal. Et je crois quand même que ça, c'est important, parce qu'on a tendance à oublier que parfois, on a peut-être un peu mal quelque part.
Bien sûr.
Ou alors l'avantage après le déjeuner, la sieste coquine, quand on a trop mangé.
Moi, je dors après déjeuner.
La petite cuillère du dessert après le déjeuner.
Et le pot à pot aussi, c'est l'avantage de cette position, d'être vraiment sur toute la longueur du corps.
En revanche, précisons quand même que c'est une position très adaptée pour la sodomie. On a oublié de le dire, et ça c'est quand même vraiment important à signaler.
Bien sûr.
Parce que là, à ce moment-là, en effet, on peut y aller tranquillement.
Proche, oui.
Et les angles, parce que on n'en parle jamais de ça, mais finalement, ce qui est important dans les différentes positions, c'est l'angle du vagin ou du rectum par rapport à la verge. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, s'il suffit d'un petit cours de géométrie...
Oui, c'est de l'anatomie, oui.
Comme le disait Julie tout à l'heure, quand on démarre dans la position de la petite cuillère, il suffit juste que l'homme reste dans sa position et que la femme bascule sur le dos aussi, en passant une jambe sur le corps de l'homme, en pliant le genou, et ainsi ouvrir ses jambes et pouvoir attraper les testicules de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment qu'on leur attrape pendant le rapport.
Doucement, quand même.
Doucement. Il y en a qui aiment qu'on leur stimule très très fort, d'autres moins. C'est comme les femmes vaginales ou clitoridiennes.
Moi, je trouve ça formidable. Une petite parenthèse, l'émission à cette heure-ci de la nuit, ça va donner des idées. Je crois qu'on peut mettre en pratique directement en écoutant l'émission.
Oui.
Plus que quand c'est diffusé l'après-midi.
Surtout quand l'après-midi, on est généralement pas l'un à côté de l'autre. Là, on peut écouter ensemble.
À cette heure-ci, c'est pas fabuleux.
Oui, très bien. Bon, écoutez.
J'ai plein d'idées, moi, qui me gênent.
Et
la cuillère à soupe. Non.
On appelle la ça louche. La 60
la louche.
La cuillère à verser, mais avec le dos.
La louche, c'est.
Ah oui. La louche japonaise.
La louche japonaise.
Ouais, on en parlera dans une prochaine émission.
D'accord, on verra ça dans une prochaine émission. Allez, pour l'instant, je vous propose d'écouter le témoignage de Josiane qui n'aimait pas les défauts de son partenaire. Et puis, juste avant, nous écoutons Paul qui était revenu sur sa peur. Nous étions avec Mireille Dubois-Chevalier ce jour-là.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Lie Night Show.
Bonjour Brigitte, bonjour Mireille.
Bonjour Paul.
Vous avez 24 ans.
Et vous avez envie de vous allez bientôt vous marier avec une jeune femme qui a 22 ans également.
On a une relation qui commence et disons qui a été assez importante, assez proche, peut-être assez tendre, etc. Mais disons que je ne sais pas à quel point ce sera sérieux, à quel point ça doit continuer, etc. Disons que ce genre de relation vraiment particulière ou intime avec une fille ne m'intéresse que si c'est pour aller entre guillemets jusqu'au bout, c'est-à-dire que pour vivre avec elle toute la vie. Mm-hmm. Mais voilà, en tout cas mon problème c'est que comme on s'est beaucoup rapproché et que c'est devenu assez disons assez intime et assez personnel, j'ai quand même un peu peur entre guillemets peut-être de lui faire peur, puisque j'ai pas envie de lui demander quoi, de la demander en mariage ou je ne sais quoi, si ça pourrait lui faire peur, si elle pourrait partir, etc.
Mais quand vous dites que vous êtes beaucoup rapprochés, c'est-à-dire est-ce que vous avez commencé à flirter ou est-ce que vous sortez pour l'instant en bon copain?
Disons un peu des deux. Mm-hmm. Donc voilà, il y a un peu les deux, il y a un mélange des deux, et c'est pour ça que ça fait peut-être un peu bizarre et que moi j'aimerais peut-être clarifier les choses, puisque dans l'absolu si cette jeune fille qui est vraiment très très bien.
Paul, je vais poser une question très précise. Quand vous l'embrassez, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle répond à votre baiser ou pas?
Alors, oui, tout à fait, évidemment. Bon. Mais je sais bien que ce ne sera pas la seule. Donc je sais bien qu'il peut y en avoir d'autres. Je sais bien qu'elle pourra trouver des garçons au moins tout aussi bien. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... mais qu'est-ce que je dois faire pour, on va dire, pour avoir le plus de chances de passer toute ma vie avec elle, vu qu'on sait que maintenant il y a presque un mariage sur deux qui finit en divorce. Et je vous l'avais dit, j'ai pas changé. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Je trouve ça assez triste et assez dommage qu'on peut avoir l'occasion de trouver quelqu'un qui.
Paul, vous avez raison. Il y a un mariage sur deux qui se termine en divorce, mais il y en a un sur deux qui ne divorce pas. Pourquoi ne pas voir plutôt la bouteille à moitié pleine plutôt que de voir la bouteille à moitié vide?
Oui, voilà. Je dirais qu'à un moment donné, il faut faire des paris de toute façon, et que c'est parce qu'on fait le pari qu'on gagne. Hein. Il n'y a que ceux qui jouent pas qui perdent, hein, de façon certaine. Donc il faut oser avancer, bien sûr, en se fiant à ce qu'on sent. Et puis, ben, pourquoi pas, oui, si effectivement vous avez le sentiment qu'elle est dans les mêmes sentiments, dans le même état d'esprit que vous, ben, pourquoi pas dire les choses. Hein.
Mais comment est-ce que je pourrais être sûr
Mais oui. Attendez, Paul, l'amour, c'est, vous êtes d'accord avec moi, c'est de l'ordre de l'émotion et c'est pas rationnel.
Mais il y a aussi beaucoup de volonté et de construction.
Certes,
ça qui est compliqué à savoir.
Les sentiments, et donc l'amour c'est un sentiment, font partie des choses qui ne sont pas rationnelles, qui sont donc malheureusement, on n'a pas de certitude. On ne pourra jamais en avoir. Parce que c'est de l'ordre du sentiment.
Pour vivre toute la vie avec quelqu'un, il ne faut pas faire appel seulement aux sentiments, même si les sentiments sont essentiels, tout à fait. Mais ce que je vous avais dit, ce qui me stressait avant, il y a quelques mois, c'était que c'est assez compliqué de savoir si la personne va vouloir nous aimer toute la vie.
Oui,
c'est cette question de volonté
non,
qui est assez compliquée.
Paul, excusez-moi, vous ne m'avez pas laissé finir. Puisqu'on est dans l'ordre du sentiment, il faut arrêter de mettre de la volonté et quelque chose de l'ordre de la certitude. Parce que vous voulez épouser la femme que vous allez aimer toute votre vie. Mais si ça se trouve, c'est vous, à un moment donné, qui en aimerait une autre. Vous n'en savez strictement rien. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes certainement quelqu'un de très idéaliste, et pourquoi pas, c'est une belle qualité quand on a 24 ans. Donc partez sur ce chemin-là, dites-lui que vous êtes idéaliste, que vous êtes amoureux d'elle, mais que pour vous, ça ne peut être que quelque chose qui dure. Est-ce qu'elle est elle aussi idéaliste? Posez le dialogue en ce sens.
Je crois qu'effectivement, vous confondez deux choses. La première chose qui est l'amour, les sentiments, comme Brigitte le dit par définition, et c'est pas de l'ordre de la volonté. Par contre, ce qui est de l'ordre, je sais pas si c'est de la volonté, mais enfin, en tout cas, du choix et de la détermination, c'est l'engagement. Ce qui est autre chose. Mais évidemment que pour s'engager mutuellement l'un vis-à-vis de l'autre, il faut effectivement poser des questions et savoir sur quelles valeurs on avance.
Voilà. Donc, je pense que, visiblement, enfin, moi, il me semble comme ça, Mireille Dubois-Chevalier, quand on écoute Paul, on a l'impression que cette jeune fille, elle est un peu sur la même longueur d'onde que lui.
Tout à fait, oui.
Donc, je crois qu'il faut vous rassurer. Vous avez sans doute trouvé une compagne avec qui vous pouvez envisager de vous engager. Donc, pourquoi pas vous lui dire que vous êtes très attaché à elle et que vous avez envie d'aller plus loin, de vous engager, hein. et puis voilà tout. Et il y a de fortes chances qu'elle soit très émue et que ça fonctionne bien. Et puis vous m'appellerez pour la marche suivante à suivre. Mais il faut aussi un peu oser, hein, dans notre vie sentimentale, sinon.
Oui, c'est ce que je disais. Il faut, mais à un moment donné, faut parier, quoi. Hein. Voilà.
Nous continuons avec Josiane. Bonjour Josiane.
Bonjour Brigitte.
Bonjour, vous avez beaucoup de choses qui ne vous plaisent plus tellement chez votre compagnon.
Ah,
c'est ça, hein?
Voilà, oui, tout à fait.
Vous êtes ensemble depuis longtemps?
Eh bien écoutez, ça fait 8 mois que l'on se connaît et ça fait 5 mois que l'on est ensemble.
Ah oui, donc c'est pas très bon signe si au bout de 5 mois vous avez déjà beaucoup de choses qui ne vous plaisent pas.
Tout à fait, oui, tout à fait. Donc déjà, il est parti 2 fois de la maison. Une fois, c'est moi qui l'ai... Il est mis à la porte.
Et pourquoi vous l'avez repris?
Pourquoi je l'ai repris? Parce que je crois que j'ai eu un amour passionné avec lui. Je pense que ça a été réciproque. Je pense que j'ai jamais aimé un homme comme je l'aime, quoi, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'arrête. Et il y a beaucoup de choses qui me font mal par rapport à lui. Parce qu'en fait, bon, depuis qu'il vit avec moi, il ne partage rien, il ne participe à rien. Depuis 8 mois, il ne m'a même pas offert une petite fleur, ni un petit cadeau.
Si j'entends bien, vous avez une sexualité qui fonctionne très très bien, c'est ça?
Au démarrage, oui, c'était impeccable.
Mais plus maintenant?
Plus maintenant. Maintenant, c'est au bon vouloir de monsieur.
Bon, bah écoutez, j'ai l'impression, Josiane, que cet homme... quelque part, il a trouvé gîte et couvert et maintenant il se repose.
Voilà,
donc il faut lui faire comprendre que soit il y met un peu du sien ou sinon vous arrêtez la relation. Mais il faut juste oser lui dire les choses telles que vous me les dites.
Eh bien écoutez, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris la porte. 2 fois, il est revenu là au bout de la 2e fois parce que bon, ben, il pense beaucoup à moi, bon, il tient à moi. Mais comme je lui ai dit, tu tiens à moi, mais il faudrait peut-être faire quand même des efforts, parce que bon, on partage les frais quand même quand on vit ensemble. J'ai pas à te dire à chaque fois.
Enfin, pas forcément, ça dépend de son train de vie, si vous gagnez plus que lui. Enfin, vous voyez, je veux dire, il ne faut pas forcément partir sur le point, oui, qu'on partage tout. Mais si il ne peut pas vous aider financièrement, il faut au moins qu'il se comporte comme...
Oui, tout à fait, il peut le faire. Mais monsieur est, comment dire, monsieur est radin, il est...
Josiane, je crois que vous avez beaucoup de choses à critiquer chez cet homme. Est-ce que vous avez des choses positives à dire? Est-ce qu'il y a des choses positives
à dire de cet homme? Alors, il est gentil, ça c'est un fait certain.
Pas rien, ça.
Oui, c'est pas rien, mais bon, il n'y a pas que la gentillesse, il y a tout le reste qui suit derrière, en fait. Il ne parle que de lui. Vous lui parlez,
Voyez, vous repartez sur des critiques. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il a de positif, cet homme, alors, à part être gentil?
Il n'y a pas grand-chose à part la gentillesse, hein.
Bon, eh ben, c'est à vous de savoir.
Il n'y a pas grand-chose pour moi.
Bon, ben, c'est à vous de savoir si la gentillesse suffit à en faire un vrai compagnon ou si ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, ben, en effet, il vaut mieux arrêter la relation.
Il vaut mieux arrêter la relation.
Vous voyez, je crois qu'il faut pas non plus penser que vous allez pouvoir changer du tout au tout quelqu'un qui bon, il a son comportement. Après, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai ou pas. Je crois qu'il faut vraiment voir peser le pour et le contre, s'il y a plus d'avantages à rester et à maintenir la relation, ou si finalement bah, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre et puis que maintenant vous en avez fait le tour et que vous pensez que ça vaut pas le coup. Mais je crois que de toute façon, la critique de manière récurrente nuit toujours à une bonne évolution d'une relation, hein, de toute façon. Et est-ce les femmes ou les hommes qui aiment les sous-vêtements? On le sait dans un instant.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et nous continuons la nuit avec Julie Duchemin, créatrice du site juliduchemin.com, Jessica, notre fidèle auditrice de RMC Commercial, et Seymour Bruxell, bio-énergéticien, auteur de la série Bistrot de la Paix sur Internet. Le love coaching du jour, de la nuit plus exactement, on va parler des sous-vêtements. Bon, c'est vrai que les hommes aiment voir des femmes avec des sous-vêtements tout à fait affriolants. Les femmes, en règle générale, sont assez friandes également de sous-vêtements. D'ailleurs, il y a eu une flambée de ventes de sous-vêtements hein, depuis une dizaine d'années. Il y a énormément de marques qui se sont développées. Ce qui a aussi beaucoup aidé les sous-vêtements féminins, bah, c'est les nouvelles matières, hein, où on trouve maintenant des matières beaucoup plus abordables. Alors, la question que je pose ce soir, c'est est-ce que c'est aux hommes d'offrir des sous-vêtements? Voilà.
Bien sûr.
Vous croyez?
Bien sûr. Parce que déjà, c'est leur envie.
C'est fréquent. Hein, mais souvent, les hommes vont acheter des sous-vêtements pour leurs femmes.
Bien sûr.
Mais comme ils ne connaissent pas bien les tailles, ils font des gestes avec les mains.
Voilà, exactement.
La vendeuse de sous-vêtements féminins doit être très expérimentée.
Alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais j'ai eu travaillé dans un magasin de lingerie à l'aéroport de Roissy. Et j'avais beaucoup, beaucoup de clients qui venaient acheter la panoplie, hein, à savoir les bas, le porte-jartel, le string, la guépière ou le soutien-gorge.
Mais
et
parce
qu'ils
partaient rejoindre leur maîtresse ou parce qu'ils
J'ai jamais posé la question, c'est vrai. Mais souvent, quand l'homme se décide à acheter quelque chose, que ce soit pour sa femme ou sa maîtresse, généralement, c'est la totale. Ça peut aller.
Les hommes ne font jamais rien à moitié.
Exactement.
Moi, ils connaissent bien la taille de leur femme, justement, ou pas?
Alors, comme vous le disiez, ils font des gestes. Voilà. Elle est à peu près grosse comme ça. Ou
par rapport à vous, oui, c'est ça.
Voilà, ils prennent nos exemples et puis ils nous disent oh, c'est un peu plus fort, un peu moins.
Moi, je trouve, pour la poitrine, c'est assez délicat. En tout cas, une femme, en général, se connaît bien et c'est pas qu'une question de taille. Hein.
Bon,
voilà, j'ai un 90C. C'est pas pour autant que tous les 90C me vont. Il y a vraiment des formes de bonnet qui vont pas donner, qui bien vont bailler. Et donc, j'aime assez bien la sortie, plutôt, où c'est l'homme qui paye, qui peut regarder. Évidemment, genre bah, des grandes galeries comme vous avez les galeries Lafayette.
Oui, il peut regarder l'essayage.
Oui, c'est un peu Pretty Woman où du coup les deux se font plaisir. C'est vrai que l'effet peut-être de surprise, même si on achète 2-3 tenues, bah, il y aura quand même la surprise parce que quelle tenue est-ce qu'on va mettre en premier va peut-être un tout petit peu moins forte que lors d'une surprise complète. Mais quand c'est une surprise complète et puis qu'on passe, justement, parfois ils veulent pas nous vexer, ils prennent un peu plus petit et on est toutes serrées, toutes boudinées, c'est pas terrible. Ou au contraire, ils se disent bon, allez, je vais pas la mettre mal à l'aise et on est là dans un truc qui flotte. Donc,
je suis tout à fait d'accord. D'abord, le soutien-gorge, c'est vraiment
tellement personnel.
Il faut que ce soit très ajusté. Et ensuite, ils nous achètent souvent des trucs un peu vulgaires, faut quand même bien le dire.
Les goûts,
ils n'ont pas toujours un goût d'un esthétisme fou. Donc, moi, j'aurais tendance à conseiller, n'achetez pas soutien-gorge, petite culotte. En revanche, si ça vous fait plaisir, offrez une tenue, genre, je sais pas, un petit déshabillé.
Une misette,
voire une guépière, enfin un truc qui est complètement ok, très sexe, très qui vous plaît bien,
genre
rouge et noir.
Bien sûr.
Ça, d'accord, mais pas des sous-vêtements qui sont faits pour mettre sous nos vêtements, quoi. Parce que ça, vous risquez fort de vous planter.
Une chance sur 10 d'y arriver.
Si l'homme nous prend un string en 36 alors qu'on fait un 42, ça va pas faire du tout. Voilà, ce sera un vrai string.
Qu'est-ce que vous en pensez, Seymour?
Moi, je je suis d'accord avec Julie pour accompagner la dame et puis faire l'essayage ensemble et justement ne pas être déçu de
remettre
de
la bretelle.
Par exemple, oui, glisser derrière le rideau de la cabine pour aller remettre la bretelle ou le string qui tombe un peu à côté. Et donc être d'accord justement sur le choix. La vulgarité, bon, je suis jamais tombé, moi, j'ai jamais connu ça parce que j'aime pas justement les couleurs vulgaires, tout ça, ça me plaît pas. Mais je comprends ce qui peut se passer pour certains hommes qui fantasment par rapport à ça. On peut pas citer de marques, mais il y a des marques qui sont vraiment très très belles et dans lesquelles on tombera pas dans la vulgarité.
C'est vrai, mais ouais. c'est souvent plus cher.
C'est souvent plus cher.
Parce que quand on voit, notamment dans les salons érotiques, la lingerie qui est vendue, c'est une lingerie qui est vraiment faite pour baiser. Enfin,
c'est du bas de gamme.
Et c'est du bas de gamme et c'est souvent un peu. Enfin, moi, je trouve ça souvent un peu vulgaire. Alors pourquoi pas, hein, si on veut jouer le jeu.
Il y a des sous-vêtements qu'on achète juste pour les enlever après.
C'est ça.
Et donc, voilà, pour jouer. Parfois même très chic, hein, ceux-là aussi, mais qui sont faits pour être enlevés. Des sous-vêtements qui ne sont pas faits pour être gardés toute une journée. Mais d'autant plus que ces sous-vêtements, comme vous dites, sont chers, sont parfois sophistiqués, de bien les choisir, ça va permettre de bien en jouer et de ne pas être déçu, comme je dis, au moment où on les passe et d'être soit trop à l'étroit, soit mal à l'aise. Dans une matière, hein, on parlait des couleurs qui peuvent ne pas aller à la femme, mais ça peut être des matières aussi. Moi, je sais qu'il y a des matières que je ne supporte pas, une autre femme, ça va lui plaire, donc c'est vraiment très personnel. Et je pense que si on veut quand même garder l'effet de surprise, on peut jouer dans la cabine, mais en ne montrant pas. C'est-à-dire que la femme essaie en disant ça me va super bien, mais tu ne verras pas le résultat final, hop, on passe à la caisse, et comme ça, il y a quand même, l'homme
une surprise.
Je te montre la carte de crédit, je vais voir quand.
La surprise, c'est surtout le prix.
Voilà, la surprise, c'est le prix. Souvent, on va voir les bas à ce moment-là, on vous laisse passer à la caisse.
Souvent, c'est une terrible surprise.
Chérie, je t'en montre trois, et tu as la surprise.
Mais c'est bientôt les soldes, hein, nous sommes bientôt.
Bon, en tout cas, vous avez la réponse, hein, donc faites attention, n'achetez pas trop n'importe quoi en pensant que ça sera sûrement parfait parce que vous la connaissez, votre femme, mais vous n'avez peut-être pas tout à fait sa taille en tête. Mais sinon, vous pouvez toujours regarder dans le tiroir quelle est la taille de son soutien-gorge qui lui va le mieux, ou bien vous l'emmener pour aller l'acheter si vraiment vous avez envie de faire comme ça. Bon, en tout cas, on va faire un petit tour du côté du Wikisex sur rmc.fr. Vous savez que vous pouvez trouver toutes les réponses que vous vous posez sur le sexe et l'amour. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter le cours de droit de Francis Caballero qui était dédié à l'exhibition sur son lieu de travail. Et puis après, on écoutera un témoignage tout à fait touchant de Frédéric sur le coming out de sa fille.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lie Night Show.
Bonjour Frédéric. Votre fille, donc, qui est majeure, hein, donc qui a plus de 18 ans, vient de vous annoncer qu'elle était lesbienne.
Oui, oui, enfin, je suis pas sûr, enfin, je la trouve tellement jeune, ça me paraît...
Elle a quel âge?
Acquis, quoi. Bah, 18 ans, passé.
Oui, oui.
Et puis, ça bouleverse vraiment la sphère familiale, je veux dire.
Bien sûr,
Moi, je le prends bien, je dirais. Mais du côté de ma femme, ça va pas du tout. Et j'aurais eu besoin de conseils, savoir comment
bien sûr.
Comment faire ça, enfin comment gérer la mini crise qui va démarrer, je crois.
Alors, il faudra du temps, hein. De toute façon, ça va pas il faut que la pilule passe, comme on dit, et ça demande du temps. Vous savez, Frédéric, c'est toujours plus compliqué pour la personne du même sexe que pour l'autre.
C'est ce que j'ai analysé. J'ai pas de garçon, mais bon.
Non,
j'ai l'impression
mais
que j'aurais moins bien accepté vis-à-vis d'un fils.
Oui, c'est normal parce que quelque part votre fille vous annonce qu'elle aime les filles. Bon, il y a une part de vous qui dit chic, j'aurais pas de rival. Je plaisante un peu, mais quelque part il y a de ça. Pour votre femme, tout d'un coup, ça remet toute sa féminité en question.
Oui.
Ça remet et sa capacité à avoir été une bonne mère et le fait que quelque part elle n'aura peut-être jamais elle ne sera jamais grand-mère. Enfin, vous voyez, il y a plein de fantasmes.
Les gens vont avoir des enfants, enfin, sans.
Mais bien sûr,
sans père,
bien sûr. Mais sur le moment, ça bouleverse tout. Vous savez, on dit toujours que les parents font une sorte de projection sur leurs enfants.
Oui.
Et c'est vrai. Et donc. Quand on a prévu que sa fille, elle va épouser le garçon qui nous donnera des enfants et qui etc. Et là il y a tous les fantasmes, tous les désirs qui sont chamboulés, quoi.
Oui. Mais alors je sais pas comment projeter l'avenir, quoi. Ça va être. Il y a eu un gros choc quand même.
C'est normal, oui. Mais peut-être qu'il était, c'était peut-être un petit peu tôt encore pour que votre fille le dise, mais en même temps, elle avait besoin de le dire.
Et oui, je le ressens c'est... comme ça, oui. Et après, je trouve tellement jeune. Elle m'a dit oui, j'ai connu un peu de garçon. Oui, c'est peut-être pour faire bonne mesure ou je sais pas.
Oui, cela dit, là où on peut quand même un peu mettre les choses un peu moins systématiques, c'est qu'à 18 ans, on peut avoir une tendance homosexuelle et puis ça peut évoluer. C'est pas forcément définitif, ça c'est vrai.
On a tendance à dire c'est un lieu commun qu'on a tous une bisexualité latente. Donc elle, pour l'instant, elle s'affirme plutôt dans l'homosexualité. Elle a connu des garçons, il est possible aussi que ses relations aient été décevantes, soit d'un point de vue physique, soit d'un point de vue sentimental, ce qui ne remet pas forcément définitivement en question la possibilité pour elle d'avoir des rapports avec des garçons plus tard. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, si elle vous l'a dit, c'est que ça représente pour elle un besoin important que les autres soient au courant. Hein. Et donc, elle a une relation avec une amie.
Oui, voilà, oui.
Actuellement, oui. Bon, pour l'instant, demandez.
À distance parce qu'elles sont loin l'une de l'autre.
Oui. Mais... Bah, pour l'instant, demandez à votre fille de pas trop évoquer cette relation à votre femme, parce que c'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Et ce que vous pouvez faire pour aider votre femme, c'est surtout lui rappeler qu'elle n'y est strictement pour rien.
Oui. Puis moi, je fais l'amortisseur là. Peut-être parfois c'est l'inverse, c'est les mamans qui sont.
Oui, mais c'est bien. C'est votre rôle de faire le tampon parce que il faut pas oublier non plus qu'entre une fille de 18 ans et sa mère, il y a parfois des rivalités, il y a parfois des enjeux de pouvoir et peut-être que quelque part votre fille, elle a fait exprès aussi de balancer ça à sa mère pour la.
Ouais, pourtant je trouve qu'elle a dû prendre des précautions, enfin, elle a parlé doucement et tout, mais c'est pas.
Bon, mais
c'est pas
tellement la forme, c'est peut-être le sur le fond, elle avait envie de mettre un petit peu entre guillemets le bazar dans les relations peut-être, hein. Mais ça peut être aussi ça correspond peut-être à un besoin profond de s'exprimer pour votre fille, mais effectivement pour l'instant ce serait peut-être bien qu'elle en parle pas trop.
Essayez, bon ben voilà, ça a été dit, et maintenant on parle d'autre chose quoi. Et laisser passer du temps. Et puis si votre femme elle a besoin d'exprimer des choses qui sont pas forcément agréables, faites le gros dos. Hein. Ne défendez pas votre fille devant votre femme pour l'instant.
Voilà, je veux pas prendre parti. C'est ça le.
Oui, bah, vous laissez
arrondir tout ça. Ouais.
Vous laissez dire et puis surtout vous laissez passer le message que bah, c'est pas les parents qui décident de l'orientation sexuelle de leurs enfants. Voilà.
Et ils n'en sont pas responsables.
Ouais, c'est un peu ça, oui.
Vous voyez, c'est déculpabiliser votre femme de ce qui pourrait peut-être la parce que elle est en colère, c'est ça?
Ah oui, c'est une colère, c'est un peu une trahison.
Voilà. Alors sachez bien aussi que ce sentiment de colère traduit souvent une injustice, c'est-à-dire que pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est moi qui me retrouve avec une fille qui aime les filles? Vous voyez, elle veut pas l'accepter, donc elle est en colère. Bon, bah, il faut qu'il y ait du temps qui passe. Hein. Votre fille, elle va bien, elle est en bonne santé.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle nous a dit d'ailleurs. Elle doit vous écouter parfois.
Le reste, ça passera. Et je pense qu'il faut laisser du temps. Bon courage.
Merci. Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Eh bien, nous retrouvons notre avocat préféré, Francisca Caballero. Merci d'être là.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on risque si tout d'un coup notre employeur rentre, ou même une collègue ou un collègue?
Bon, je ne suis pas un grand spécialiste du droit du travail, donc je pense que de ce côté-là, l'employeur peut toujours estimer que c'est une fausse professionnelle, de l'exhibitionnisme sur les lieux de travail, et que par conséquent, ça justifierait une mesure de licenciement ou de mise à pied, etc. Je me prononce justement que sur le fond du problème. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce fait d'exhibitionnisme? Parce que c'est ça le risque en droit pénal que ce genre d'attitude pourrait entraîner.
Bien sûr. Oui.
Alors, l'exhibitionnisme, c'est une vieille infraction. D'ailleurs, je me suis trompé la dernière fois que vous m'avez interrogé. Interrogé sur celui qui, dans une voiture, sur la voie publique, se fait faire une gâterie, ça n'est plus puni de 2 ans d'emprisonnement, ça a été ramené à 1 an d'emprisonnement. C'est donc petite infraction, mais quand même, on est jugé en correctionnel pour ça. Or, c'est vrai que ça exige une exhibition sexuelle dans un lieu accessible au public. Dès lors que la webcam de vos employés est accessible à l'employeur, ce que je ne sais pas, mais tout dépend si c'est un appareil qui leur appartient ou ils s'échangent, ou si c'est les ordinateurs de l'entreprise.
C'est possible que ce soit plutôt l'appareil de l'entreprise,
oui,
me semble-t-il.
Dans lequel il y a une webcam et ils se mettent devant. Alors là, on peut dire que n'importe qui, d'ailleurs leur employeur lui-même, peut non seulement voir ce qu'ils font, mais l'enregistrer. Et à ce moment-là, saisir la justice en disant c'est de l'exhibition sexuelle, il faut reconnaître que l'exhibition sexuelle peut se commettre, ça paraît bizarre, mais dans un lieu privé. Imaginez par exemple une chambre où il y a des enfants et le grand-père, il y a des arrêts, il arrive tout nu, il débarque. C'est un petit peu comme la webcam qui débarquerait dans l'entreprise et que tous les employés pourraient la voir. Ceci dit, on voit bien que dans votre affaire, ce petit couple ne cherche pas intentionnellement à être vu. Il cherche, je pense, simplement à avoir un petit plaisir en privé. Donc, moi, j'ai toujours dit, c'est pas normal qu'on applique cette législation sévère, la correctionnelle, à des délits qui sont pas intentionnels, qui sont de l'imprudence. Donc, personnellement, je relaxerai le petit couple.
D'accord. Bah, écoutez, on ne les a pas jugés non plus. Mais en revanche, c'est vrai, c'était un petit peu mon conseil d'être quand même très prudent.
Et ne serait-ce que vis-à-vis de l'employeur. Puis bon, ça papote dans l'entreprise. Après, à la limite, vous savez, c'est plus le « quand dira-t-on ?» Tu sais, Brigitte et Kevin, ils se font ça pendant la pause. Bon, on peut assumer sa sexualité, mais je veux dire, on n'a peut-être pas envie d'étaler sa vie privée en public, parce que l'exhibitionniste, c'est aussi montrer sa vie privée aux yeux de tous. Parce que quand même, je ne sais pas ce qu'ils se faisaient dans leur petit cabinet, masturbation.
Ils s'en faisaient, si vous saviez, Francis Caballero. Merci en tout cas, Francis, bon, de nous avoir éclairé sur ce sujet.
Voilà, sur cette petite question.
Et dans un instant, le moment le plus indiscret du soir, le Love Test.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Late Night Show.